On est de retour à la zone payante. Jean-Nicolas Gagné en compagnie de Jean Carrier et Stéphane Cadorette. Les gars, quatrième essai, on y va?
On est prêts.
On dégage pas,
ça. Non, nous autres, on est agressifs. On est des Doug Pederson. Écoutez, les boys, je vais vous poser des questions rapides. Puis allez-y avec des réponses courtes. On va espérer des débats, mais si vous entendez, on continue. Quelle est la meilleure équipe de la NFL en ce moment, les gars? Commencez par Jean.
Pour moi, c'est les Packers. Si les Packers continuent de mettre plus de 35 points par match sur le tableau indicateur avec la défensive qu'ils ont, ils vont être extrêmement difficiles à battre.
Steph?
Je reste pour l'instant avec les Chiefs. J'ai aimé la qualité de leur opposition. T'sais, ils ont battu les Texans d'Houston, ils ont battu les Chargers. Deux équipes quand même qui sont pas évidentes à battre. Les Packers, oui. Ce que j'aime un peu moins, c'est justement leurs adversaires. T'sais, ils ont battu les Vikings et les Lions qui ont actuellement là, des défensives extrêmement poreuses. J'ai hâte de les voir contre une équipe un peu plus sérieuse avant de me prononcer sur eux autres.
Est-ce que les Bears sont for real?
C'est une question, honnêtement, qu'on peut pas répondre présentement parce que ça va dépendre, honnêtement, de Mitch Trubisky. Il va très bien présentement. Il fait quand même des bonnes choses. Mais le doute va toujours subsister. Est-ce qu'il est capable de faire fonctionner cette équipe-là de façon constante, peu importe l'adversaire? C'est ça qu'il faut se poser. C'est la constance dans son cas. Il y a déjà eu des bons moments dans la NFL. Ils ont juste pas duré très longtemps. Est-ce que c'est encore ça? Eh bien, honnêtement, c'est le temps qui va nous le dire. Moi, ma réponse, c'est ça. Pour l'instant, c'est extrêmement difficile à dire. La réponse va être dans les prochaines semaines.
De mon côté, moi, je pense pas que les Bears sont pour vrai. C'est un peu trompeur, là, leur fiche. Ils ont battu les Giants de peine et de misère en fin de semaine. Écoute, Trubisky, son dernier match, là, c'est l'exemple parfait c'est l'image de sa carrière à date. Une première demi, 159 verges, deux passes de toucher. En deuxième demi contre les Giants, 31 verges, deux interceptions. Pour moi, c'est ça, Mitch Trubisky, depuis le début. C'est d'un extrême à l'autre, d'un match à l'autre, tu sais pas ce qu'il va te donner. Les Bears, quand l'opposition va devenir sérieuse, puis que il va commencer quand ça va commencer à chauffer à un moment donné, là, plus tard dans la saison, j'ai bien de la misère à croire que Trubisky va être l'homme de la situation. Je lui souhaite, là, tu sais, honnêtement, c'est un jeune. On veut que les jeunes carrières réussissent. Mais je pense pas, là, honnêtement, qu'il est équipé pour le genre de commande qu'il attend.
Qu'est-ce que faisait Brett Favre dimanche avec un chandail de Tom Brady, les Bucks, dans les estrades, alors que des joueurs se plaignaient, je sais pas si vous avez vu, les gars de la ligne des Bucks se plaignaient que leur famille pouvait pas être au match, mais que Brett Favre pourrait être. Qu'est-ce qu'il faisait là?
Ben, Brett Favre, finalement, ce qu'on a appris, c'est que, semble-t-il, qu'il participait au tournage d'un documentaire pour NFL Films à propos du secondaire des Buccaneers, Devin White. Écoute, fouille-moi c'est quoi son rôle exactement là-dedans, là, mais c'est tout ce qui est sorti jusqu'à maintenant. C'est pour ça qu'il était là. Parce que c'est Ryan Jensen, là, je pense, qui s'est plaint sur Twitter en disant « Bon, ma famille peut pas être au match, mais lui, il a le droit d'être là. C'est quoi la logique là-dedans? » Semble-t-il que c'est ce qui explique la présence de Brett Favre, mais quant à ta question, qu'est-ce qu'il faisait avec le chandail de Tom Brady? Ça, pour moi, c'est le grand mystère. Là. J'ai aucune idée. Peut-être que c'était un signe de soutien entre deux vieillards, qui sait.
Exact. Mais, c'est exactement ce que je pensais. Je dis, oh, un carrière du troisième âge, faut que j'aille l'encourager. C'est aussi simple que ça. Puis du côté de Brett Favre, honnêtement, j'en ai vu de toutes sortes sur les médias sociaux, mais j'ai bien aimé celle-là. Il dit, Brett Favre, c'est comme Chuck Norris. Il se lave le matin, il se brosse les dents avec la COVID-19, puis ça fait absolument rien.
En tout cas, pas de retour au jeu pour Brett Favre, là. Pas de sortie de retraite. Là.
Non, mais on se rappelle que ça reste quand même un carrière qui est au temple de la renommée, un des grands carrières qu'il y a eu dans la NFL. Quant à moi, s'il veut se présenter dans un match de la NFL, il a le droit.
Est-ce que Josh Allen va retomber sur terre?
Écoute,
Écoute, le côté Dolphins de 400 verges, c'est pas un exploit, là.
Non, c'est là où je m'en allais. Est-ce qu'il va retomber sur terre? Oui, d'une certaine façon. Je pense quand même que ça va être un bon corps arrière dans cette ligue-là. Tu sais, tu regardes la fameuse QV de, c'est quoi, c'est 2018, ça, qui était avec Sam Darnold, Josh Rosen, Baker Mayfield. Tu sais, je pense que c'est lui qui est en train de sortir du lot, là, bien sûr, avec Lamar Jackson cette année-là. Mais tu regardes la cédule qui s'en vient, là, il va avoir les Rams, il va avoir les Raiders, il va avoir les Titans, il va avoir les Chiefs dans les prochaines semaines. On va vraiment savoir plus ce qu'il vaut. J'ai l'impression que Allen va continuer de montrer des choses intéressantes, va continuer de progresser. C'est son pourcentage de passes complétées, moi, à date, qui m'épate, là. Si je me trompe pas, il est au-dessus de 70%, alors que jusqu'à maintenant, que ce soit à l'université à Wyoming ou que ce soit dans la NFL avec les Bills, c'est pas un passeur qui est qualifié de précis. T'sais, c'est pas un gars qui complétait là, 60% de ses passes avec régularité. C'est ça, moi, qui m'épate à date dans son jeu. Au-delà du nombre de verges puis des passes de toucher, s'il peut devenir constant à ce niveau-là, ça va être vraiment un corps arrière formidable parce qu'il présente la menace au sol à chaque jeu aussi. Il est physique, il est apprécié de ses coéquipiers. Mais de là à dire qu'il va maintenir le rythme qu'il a depuis les deux premières semaines, là, c'est vraiment un long shot.
Moi, je vais y aller, je vais trancher un peu plus. La réponse, c'est non. S'il va performer exactement comme il performe présentement, tout indique depuis le début de sa carrière que la réponse est non. Il va retomber un petit peu sur terre. Il est pas aussi précis qu'il l'est présentement. Je pense qu'il est en train de progresser, comme Stéphane l'a dit. Il demande des belles choses. Puis Josh Allen, faut pas oublier, là. C'est un peu un mutant, là. Un très, très beau gabarit. Il a un bras canon. Ça a toujours été la précision qui a été son défaut. Puis du jour au lendemain, comme ça, qu'il est devenu aussi précis que Drew Brees, j'ai des sérieux doutes là-dessus. Ouais. Je pense que ça va retomber un petit peu. Il va quand même continuer à bien performer, mais pas au niveau présentement qu'il est.
Hey, les frères Kerr, les gars, sont invincibles quand ils rouvrent des stades. David a gagné avec les Texans quand ils ont ouvert leur stade et Derek Kerr a gagné avec son nouveau stade à Las Vegas. Est-ce que John Gruden est en train de redevenir un entraîneur de la NFL craint et respecté?
Avec l'attaque qu'il y a avec lui, il a besoin d'être craint parce que, sincèrement, tu regardes les Raiders, il y a énormément de vitesse à l'attaque, un excellent porteur de ballon en Josh Jacobs, puis garde, t'as une ligne offensive, c'est l'équipe qui a investi le plus à travers la ligue sur sa ligne offensive, ils ont au-dessus de 50 millions investis sur ces gros bonhommes-là. Puis t'avais, dans le match du lundi soir, t'avais Trent Brown qui était blessé, t'as Richie Incognito qui a été blessé aussi, puis la ligne à l'attaque continuait de performer. Là, ça commence à être signe de profondeur, ça commence à être signe d'une attaque qui a vraiment beaucoup de munitions pour attaquer d'un peu partout. Donc oui, en ce sens-là, je pense que John Gruden peut redevenir un entraîneur qui est craint, qui est respecté. C'est pas qu'il l'était pas avant, mais les Raiders étaient pas nécessairement menaçants là, depuis qu'il était revenu. Là, je trouve que avec l'émergence de l'ailier rapproché d'Aaron Waller, Henry Ruggs qui amène beaucoup, beaucoup, beaucoup de vitesse, Bryan Edwards, un autre receveur recru qui est appelé à devenir excellent.
Ouais, il demande des belles choses aussi.
Les Raiders peuvent frapper vraiment de partout.
Moi, j'irais plus dans le sens que je pense pas que son statut a vraiment diminué tant que ça. Ça reste quand même un entraîneur qui a gagné le Super Bowl. Il y en a pas tant que ça dans la NFL qui peuvent se vanter de ça. On regarde Kyle Shanahan, il y en a plusieurs qui disent « Ah, c'est un génie offensif, il est incroyable. » Mais il y a deux défaites au Super Bowl. Ça reste qu'il a pas gagné le gros trophée. Dans le cas de Gruden, il l'a fait. Donc, moi, je pense qu'il est en train de remettre les pions en place puis remettre les Raiders compétitifs. Je pense quand même qu'il y a du chemin à faire parce que oui, l'attaque est belle, mais défensivement, ouais, c'est pas encore ce que ça devrait être. Puis tant que la défensive joue pas un peu mieux, je pense que ça va être quand même tough pour les Raiders.
OK, retour de notre chronique. Est-ce qu'on est déprimé ou on n'est pas déprimé si on est Kyle Shanahan?
Écoute, s'il est pas déprimé, il y a un gros problème avec l'avalanche de blessures que cette équipe-là a. Ben, écoute, tu peux pas être déprimé, mais en son fort intérieur, quand il est rentré chez lui dimanche soir, c'est pas très drôle ce qui se passe là-bas. Là. Écoute, on refera pas la nomenclature, on les a toutes nommées en début de show, mais c'est incroyable le nombre de blessures. Faut que tu composes avec ça, faut que tu trouves des solutions. T'as pas le droit de te dire, ben, ce serait normal, les gars, qu'on en perde une coupe, là, on n'a pas nos réguliers. Tu peux pas, c'est pas une solution, là. Donc, Kyle Shanahan, oui, ça doit être des moments difficiles, mais par contre, c'est un entraîneur quand même plein de ressources. Les Niners, ça reste une organisation solide. Ils vont trouver des solutions, mais ce sera vraiment pas une année facile dans cette division-là.
Jean, est-ce que Kyle est déprimé ou il est pas déprimé?
Je pense pas parce que c'est pas dans sa nature, là. Je pense que c'est vraiment un fighter, Kyle Shanahan. Il va tout faire pour donner la meilleure chance à son club de revenir. Mais c'est sûr que dans son fond intérieur, quand il a vu Nick Bosa tomber, il sait très bien que ses chances de retourner au Super Bowl cette année, ils viennent de descendre de façon impressionnante. Ça, c'est sûr et certain. Donc, est-ce qu'il va revenir? Est-ce que les Niners vont revenir dans la division la plus forte? Ça va être extrêmement difficile. Si les Niners, honnêtement, reviennent et font, tu sais, font un bout de chemin en série, honnêtement, je vais être vraiment impressionné du travail de Kyle Shanahan.
Est-ce que Teddy Bridgewater est déprimé ou déprimé aujourd'hui?
Aucunement pour moi. Il savait très bien dans quoi il s'embarquait avec les Panthers. Il sait que ça va être un très long processus. Ils l'ont choisi parce que il savait que Teddy Bridgewater est un gars patient, c'est un gars qui est calme comme carrière. Ils sont en train de changer vraiment le programme, si je peux m'exprimer ainsi, mais l'équipe, la fondation de cette équipe-là, ils sont en train de la changer au complet. Ça va prendre du temps. Je pense pas qu'il est déprimé, non.
Non, exactement. Il savait, Teddy, dans quoi il s'embarquait. Puis les Panthers, c'est pas une équipe qui est mûre pour gagner maintenant, là. Je pense qu'il faut pas se mettre d'ailleurs. Puis là où il pourrait être déprimé, Teddy, c'est pas en ce moment, c'est peut-être à la fin de la saison. Si les Panthers gagnent, je sais pas moi, 3-4 matchs cette année, et puis que on décide d'aller dans une autre direction, qu'on repêche l'un des bons jeunes carrières qui vont être disponibles, là, que ce soit Lawrence ou Justin Fields ou peu importe.
Ah, bon point, Stéphane.
Là, il pourrait avoir les blues pas mal à la fin de l'année. Là, t'sais, c'est plus là que la déprime pourrait frapper qu'en ce moment. D'ailleurs, il joue pas mal, Teddy Bridgewater, pour l'instant. Les Panthers sont plus compétitifs, ils perdent, mais ils ont donné 2 semaines compétitives, là, que ce soit aux Raiders ou au box en fin de semaine, se battre jusqu'à la fin. Ça, pour moi, c'est signe d'une équipe qui croit en son jeune entraîneur-chef, Matt Rhule. Donc, je pense pas qu'il y a matière à déprimer pour l'instant.
Est-ce que l'entraîneur des Eagles, lui, Doug Peterson, doit être déprimé ce matin?
Je pense pas, mais il cherche des réponses. Lui, il se dit, pourquoi mon équipe visite l'infirmerie plus que n'importe quelle autre équipe dans la NFL depuis 2 ans? Pourquoi la game nous lâche pas? Il se pose vraiment des questions. Mais honnêtement, lui aussi, je le mets dans la même catégorie que Kyle Shanahan. Doug Peterson, il a réussi à trouver des réponses l'an passé avec les Eagles qui étaient rapiécés de partout. Honnêtement, j'ai quand même confiance qu'il trouve quelques réponses.
Ben, si la question est-ce que Doug Peterson est déprimé parce que son poste est en jeu? Non, moi je pense pas que son poste est en jeu. Il a fait trop de bon travail avec cette équipe-là. Comme Jean le mentionnait, il y a eu tellement de blessures depuis 2 ans. Il a toujours laissé, il a toujours trouvé une façon de laisser l'équipe compétitive. Il y a pas matière à être déprimé. La seule point qui peut commencer à le gruger un peu, là, c'est la tenue de Carson Wentz. On a parlé beaucoup qu'il était mal protégé. En fin de semaine, j'ai trouvé qu'il a été vraiment mieux protégé dans le match de dimanche. Puis pourtant, il a quand même lancé 2 interceptions. Tu veux pas que ton corps arrière là, se mette à prendre la route des revirements. Il y avait déjà un problème un peu d'échapper, de fumble, Carson Wentz. Mais au niveau des interceptions, c'était vraiment sous contrôle. Là, il y en a 4 en 2 semaines. S'il y a un point qui inquiète Doug Peterson, je pense que c'est celui-là.
Est-ce que Aaron Rodgers est déprimé avec ses receveurs qui l'aident pas ou qui sont blessés?
Ah non, il peut pas être déprimé. T'as vu le début de saison des Packers? Ah non, s'il était déprimé, c'est qu'il était instable. Je vois pas pourquoi Aaron Rodgers serait déprimé. L'équipe va bien. C'est sûr qu'il faudrait pas que Davante Adams s'absente longtemps. Matt LaFleur, l'entraîneur-chef, a semblé dire que c'était pas une blessure grave, que Adams aurait même pu potentiellement revenir dans le match là, dimanche. Si Adams devait rater du temps, Le Rodgers pourrait se poser certaines questions, mais en ce moment, il n'y a aucune raison d'être déprimé, zéro.
Non, moi, même chose, Aaron Rodgers, il pète le feu, il regarde Jordan Love sur le banc, puis il dit « Tiens, c'est comme ça qu'il faut que tu fasses, c'est comme ça qu'il faut que tu fasses ça, mon grand. » Puis, je pense, c'est quoi sa routine, Aaron Rodgers? J'aime ça, je pense, prendre un petit cognac, je pense, des fois, le soir. Je pense qu'il est très, très relax, il se prend son cognac, puis il n'y a aucun stress avec Aaron.
Est-ce que Steven Ross, le propriétaire des Dolphins, est déprimé ou n'est pas déprimé?
Il n'y a pas de raison non plus d'être déprimé. Les Dolphins, on oublie que c'est une équipe qui est encore en reconstruction. C'est pas fini, ce travail-là. Oui, on les voyait compétitifs cette année, puis c'est pas fini. Ils sont 0-2. Je pense qu'ils ont fourni un effort quand même vaillant contre les Bills. Ils ont presque remonté à la fin. Il n'y a pas de raison pour l'instant là, de sombrer. C'est juste que tu as hâte que les victoires viennent. J'imagine que comme propriétaire, tu as encore plus hâte que les fans. Puis une autre raison pour M. Ross de pas être déprimé, c'est que, écoute, il y a eu quelques fans dans son stade en fin de semaine, quelques milliers, ça fait toujours bien ça de rentrer. Non, je pense que les choses suivent leur cours à Miami, en fait. On a tendance, parce qu'ils ont eu une saison, une fin de saison l'année passée, là, vraiment très concluante, les Dolphins, on a un peu peut-être sauté aux conclusions comme quoi ça allait être un club de série ou presque cette année. Mais il y a quand même encore des lacunes dans cet alignement-là, puis le travail se poursuit, comme je le disais.
Ouais, Steven Ross n'a pas peur de la fin du mois quand même.
Ben, non, ben, comme beaucoup de propriétaires dans la NFL, je te dirais.
Oui, oui, exact.
Moi, je le vois les choses différemment. Moi, je pense qu'il est peut-être un petit peu déprimé parce que il vient de voir que lui, il dit « Ouais, j'ai 80 ans, est-ce que je vais vraiment voir mes Dolphins remporter un Super Bowl de mon vivant? » Les chances sont minces.
On le saura pas sans qu'on ait vu Tua sur le terrain.
Si exact, c'est sûr, je suis d'accord.
Parce que c'est clair qu'avec Fitzpatrick, tu penses même pas. Mais quand Tua va embarquer, s'il montre vraiment des signes prometteurs assez rapidement, la situation peut se revirer là, à une vitesse folle. On l'a vu dans certaines équipes. Quand le corps arrière performe, puis tôt dans sa carrière, je pense à Russell Wilson avec les Seahawks. Tu sais, c'était une équipe qui allait à peu près nulle part. Ils se sont revirés sur un 10 en 2012-2013, je pense 2014, il était au Super Bowl, c'est ça, ou même 2013. Ça va très, très vite parfois. Va falloir voir ce qu'il peut donner.
OK, hey, les gars, nommez-moi donc un joueur qui est disponible dans la plupart des fantasy qu'on devrait aller chercher sur le waiver cette semaine.
Et moi, j'ai le goût d'y aller avec Mike Davis, porteur de ballon des Panthers de la Caroline. Écoutez, si vous avez une ligue dynastie, c'est pas le gars qui va vous amener quoi que ce soit. Là. On se fera pas d'accord. Mais Christian McCaffrey, on projette une absence de 4 à 6 semaines. Lui, il espère que ce soit un peu moins long. Mais même si c'est un peu moins long, disons que pour les 2-3 prochaines semaines, c'est une belle police d'assurance. Il sera jamais aussi efficace que McCaffrey, mais c'est quand même lui qui va avoir la balle à tous les jeux. Il n'y aura pas le ballon autant que McCaffrey non plus. Là. McCaffrey, c'est un gars qui débarque à peu près pas du terrain. Mike Davis, ce sera peut-être pas le cas. Mais si vous avez besoin là, d'un joueur flex qui peut donner, là, je sais pas moi, une douzaine, une quinzaine de points, ça peut être une option intéressante pour quelques semaines seulement.
Moi, de mon côté, je peux même t'en nommer deux. J'ai Jerick McKinnon, porteur des Niners de San Francisco, évidemment, avec... toutes les blessures, dont celle à Mostert, ben écoute, McKinnon devient un choix intéressant.
Coleman aussi est blessé en passant.
Oui, exact. Donc évidemment, là, ça augmente sa valeur. Et Marcus Valdez-Scantling, le receveur des Packers, il est quand même ciblé souvent, puis souvent dans les zones profondes. Donc des fois, si t'as besoin là, de
peut-être. Mais il l'échappe souvent.
Oui, il l'échappe souvent, effectivement, mais. C'est ça. Écoute, ça se peut qu'il te donne rien, mais si t'as besoin d'un coup de circuit une semaine, c'est possible qu'il puisse te le donner.
OK, ben bonne semaine aux Poolers en cette troisième semaine. Nous, on va s'arrêter le temps d'une pause et ensuite, ben ce sera vos prédictions, les gars, pour la semaine 3.